Je ne vais pas vous faire peur, mais j'ai prévu d'être long. Alors. Donc, la fois dernière, j'avais basé mon message sur les livres de Néhémie et d'Esdras. Si vous en souvenez, c'était question de reconstruction et de notre reconstruction à nous. Voilà. On ne va pas refaire ça. Simplement, l'idée, c'était que si on s'occupait de notre propre vie, eh ben, on peut attaquer la deuxième phase, qui est de regarder autour, en fait, de s'ouvrir à l'extérieur. Et je pense que ça colle un peu à quand on est avec le Seigneur, en fait. Dans un premier temps, on est fort centré sur nous-mêmes, en fait. On voit le salut comme étant pour nous, et puis, voilà, on se dit, le Seigneur, faut qu'il fasse ça, qu'il fasse ça, et puis on avance, et puis Seigneur, il fait ça dans ma vie. Et puis, au bout d'un certain temps, je pense que quand on a suffisamment fait le ménage, qu'on a bien remis les choses en ordre, le Seigneur, il nous dit, mais ouvre les yeux, regarde autour. Et autour, c'est pareil, c'est pas très beau à voir. Et autour, c'est l'évangile pour les autres. D'accord ? Et donc, je voulais parler justement de cet aspect autour, ce qui est extérieur à nous. Et je suis resté dans Néhémie. J'aime bien ce livre-là. Et j'ai voulu regarder surtout en détail la prière que fait Néhémie au premier chapitre du livre. Donc Néhémie chapitre 1, on lira la prière, hein, une prière qui est fort, fort proche de celle-là, qui est celle dans Esdras, mais on ne verra pas les deux aujourd'hui, vous verrez que les idées sont vraiment proches. Donc Néhémie chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes de Juda, arrivèrent de Juda, pardon. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. On vous dit, on va juste lire Esdras, vous verrez que ça ressemble fort. Donc Esdras au chapitre 9, c'est quelques pages avant. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les lévites ne sont point séparés des peuples de ce pays. Ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ce pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. » Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité, et moi je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, « Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face contre toi. vers toi. Car mes iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son lieu saint, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu ? Car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes, en disant : Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, puni en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservé ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables ? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire, sans laisser ni reste ni réchappé ? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. C'est un peu long, au moins vous avez le contexte, et je pense, j'espère que comme moi, vous verrez l'idée qui revient tout le temps dans ces deux prières, on en parlera. On va s'attacher à Néhémie. Donc Néhémie était au service du roi des Perses, dans Suse, la capitale. Et les premiers versets, ça nous dit que à une certaine date, comme il était dans la capitale, il y a l'un de ses frères et quelques hommes qui viennent de Juda. Et c'est lui qui prend l'initiative, en fait. C'est un premier point qui est intéressant. C'est ils arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés et de Jérusalem. Donc ça, il y a deux choses, en fait. Il s'intéresse à ceux qui sont restés dans la province et il apprend que ils sont... C'est le verset 3, hein. Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Donc l'opprobre, le mot qui est derrière, il parle de déshonneur, il parle de honte et de disgrâce. Parce que opprobre, ça ne nous parle pas à nous, ce n'est pas un mot très, très récent, on va dire, très actuel. Et quand il demande pour Jérusalem, on lui dit, Jérusalem, elle est en ruine, les murailles sont en ruine, les portes sont consumées par le feu. Donc il y a une idée là que je ne vais pas développer, mais que... tout ce qui permettait de protéger la ville de l'extérieur, c'est tombé. Les murailles, elles sont cassées, la porte, elle est brûlée. Et moi, ça m'a fait penser un peu à la France, en fait. Alors, pas en disgrâce devant Dieu, pas dans le sens la grâce, c'est fini pour la France. Sinon, on n'aurait plus rien à faire. Mais dans le sens où on ne profite pas de la grâce de Dieu, en fait. On s'en met à l'écart nous-mêmes. Et... quand on voit un peu ce qui se passe autour, on se dit c'est triste notre pays. Alors il y a d'autres pays qui sont peut-être aussi tristes que nous. On est peut-être négatif en disant que quand même en France c'est pas beau à voir. Il y a cette idée de liberté, de philosophie, de pensée, de quelque chose. Nous c'est le pays des Lumières, quoi, la France. Et là tout de suite on a les chevilles qui gonflent parce que la France, quoi. On est un petit pays de rien du tout sur la carte, mais on se donne une importance qui est pas possible. Et toute cette idée de nous, on est là pour la liberté, on est là pour la liberté même des autres peuples. Hein. Il y a un orgueil en France qui fait mal au cœur, quoi. Et on est séparé de Dieu et en même temps, on a laissé porte ouverte à tout. Nos murailles, les portes, elles sont en feu. On a tout laissé rentrer dans le pays et on entend des choses autour de nous. On dit, mais les gens, ils croient n'importe quoi. Je voyais encore quelqu'un qui mettait sur Internet des pubs pour un marabout. Et je dis, ça ne devrait pas marcher en France, quoi. Alors les gens vont se marrer, c'est sûr, autour de nous. Mais s'ils mettent ces choses-là, c'est que ça marche d'une manière ou d'une autre. La réaction de Néhémie, quand il entend ça, quand il voit ce qui est autour de lui, c'est au verset 4, « J'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Et il y a cette désolation pendant plusieurs jours. C'est pas juste il a entendu la nouvelle, et c'est un peu comme nous quand on écoute les informations, parce qu'on est, saturé en fait, hein. Mais on entend un truc, voilà, il y a eu tant de morts, je sais pas où, on l'entend, mince, alors on est touché, nécessairement on est touché. Mais finalement, avec la vie reprend, et puis on zappe, et puis le lendemain, on peut avoir oublié. Alors en France, quand il se passe un truc, on n'oublie pas, parce qu'on nous le rabâche pendant longtemps. Et s'il s'est passé quelque chose, je sais pas où dans le monde, il suffit qu'il y ait un Français qui soit concerné, on en entend parler, hein. Donc ça nous aide à pas oublier, mais dans un sens, notre vie de tous les jours, elle reprend le pas quand même. Et puis voilà, on a oublié, on n'a pas fait grand-chose finalement, on repart dans le train-train quotidien. Et là, on voit que chez Néhémie, ça a laissé une tristesse durable. Il y a quelque chose qui était dans son cœur, qui était tourné vers son pays, qui était tourné vers sa ville, qui fait que quand il entendait des nouvelles comme ça, il gardait ces choses-là et ça le touchait vraiment, profondément. Ses réactions, c'est qu'il jeûne et qu'il prie devant Dieu. Alors, est-ce que nous, on a l'habitude de jeûner quand on entend quelque chose comme ça, quand on entend un désastre ? Alors, je crois que bien souvent, et c'est moi y compris, on a tendance à prier sur le moment même, à dire « Seigneur, ouais, c'est important », et puis on oublie. Est-ce qu'on jeûne ? Alors, des fois, on dit « Ouais, mais jeûner, c'est compliqué, c'est dur. Je vous dis pas de jeûner 3 jours d'affilée d'un seul coup, comme ça, la première fois. » Mais faites juste un petit quelque chose et mettez-vous, c'est une discipline à avoir. C'est vraiment quelque chose où on peut tous y faire quelque chose. Et le jeûne, on en parle à plein d'endroits dans la Bible. Jésus lui-même, hein, quand il y a des disciples qui veulent chasser un démon, ils disent « Mais on n'y arrive pas, Seigneur », quand ils descendent de la montagne après la transfiguration. Et Jésus leur dit « Mais cette sorte de démon-là, elle ne sort que par le jeûne et la prière. » On ne sait pas s'ils avaient l'habitude de jeûner, ces disciples, avec lui, hein. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faudrait avoir. Dans d'autres traductions, là, la seconde, elle met un point entre les deux. C'est-à-dire, c'est un point, c'est idiot, ça ne change pas grand-chose, mais on a l'impression, en coupant cette phrase en deux, qu'il a entendu, il a pleuré, tout ça, il a été triste, et qu'il lui a fallu un certain temps après pour se dire « bon, je vais prier, je vais jeûner ». Or, dans le texte initial, ce n'est pas comme ça, c'est en un seul morceau, en fait. Si on lit la Darby, ça dit « Et lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurais et je menais deuil plusieurs jours et je jeûnais et je priais le Dieu des cieux. » C'est un peu plus lourd à lire hein, quand c'est dans cette version-là, mais tout est d'un bloc. Vous pouvez trouver d'autres versions où c'est vraiment regroupé. Et la différence, ça veut dire que c'était le même mouvement en fait. Il n'y a pas fallu qu'il réfléchisse à se dire « Oui, c'est vrai, je suis chrétien, faut que je prie pour ces choses-là, c'est important. » Il a entendu, il a été triste et il a prié. Voilà, ça s'est fait dans la continuité. C'était naturel pour lui de prier, de jeûner pour les choses qu'il venait d'entendre. Donc ça c'est important aussi dans cette prière de Néhémie. Vous voyez aussi que j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais. Je vous dis que c'est la même phrase. Donc, c'est-à-dire que plusieurs jours, il a prié, il a jeûné, il était dans la désolation. Tout ça, ça a duré un certain temps, en fait. C'est pas juste, il a jeûné quelques jours, il a prié quelques jours, c'est regroupé. Les premières paroles de Néhémie, après, donc à partir du verset 5, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, qui observent tes commandements. » Je veux dire, dans tout ce qu'il dit là, il ne demande pas encore quelque chose à Dieu, en fait. Et je pense à la prière de Janet tout à l'heure. Il s'appuie sur la fidélité de Dieu. Dès le départ, il répète dans sa prière, « Dieu, tu es comme ça. Tu es fidèle, tu es grand, tu gardes ton alliance, tu fais miséricorde. » Et c'est un point qui est important pour nous aussi, de s'appuyer sur qui est Dieu quand on prie. Pas juste d'aller direct et dire, « Seigneur, j'ai besoin de ça. » Il y a quelque chose qui est agréable à Dieu. Alors, on n'a pas besoin de lui rappeler, d'accord avec moi, que c'est pas parce que vous allez voir Dieu en disant « Ah, t'es fidèle » que « Ah oui, c'est vrai !» Dieu va se dire « Oui, c'est vrai, je suis fidèle, j'avais oublié. » Non, il est comme ça par nature. Mais quelque part, on montre que « Seigneur, je sais comment tu es, je te connais » et c'est une prière de foi, en fait. De dire « Voilà, je sais comment tu es et j'ai confiance que tu vas agir en fonction de qui tu es. » Finalement, dans le Notre Père aussi, hein, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, on n'en vient pas lui demander à manger tout de suite, on en vient d'abord à le considérer lui dans sa grandeur. Et c'est peut-être aussi quelque chose pour nous, un petit truc, bon, je pense que tout le monde le connaît, mais quand vous ne savez pas quoi prier, vous ne savez pas quoi chanter ou quoi dire, bah, il y a plein de paroles dans la Bible. Vous pouvez les prendre, on le fait souvent avec le Notre Père, hein. Dire bah, je vais prier le Notre Père. C'est presque devenu une rengaine qui, du coup, perd un peu de valeur dans certaines situations. Mais il y a des psaumes, il y a des proverbes, il y a plein de choses dans la Bible qu'on peut réutiliser pour prier. Et bah, quand on est un peu à sec, voilà, on a une source qui est là quelque part. Je notais aussi que, dans un sens, dans le monde, les gens ne se gênent pas pour faire ce genre de comportement. Alors, pas avec Dieu, bien sûr. Mais les gens, ils vont dire « Ah, tel homme politique, c'est un mec bien, celui-là, il a fait ci, il a fait ça, et on va le louer facilement. Tel sportif, vous avez vu, une médaille d'or au JO, il est un mec bien, celui-là. En plus, quand il dit à côté, on l'écoute, voilà, pour un objet. C'est ce téléphone-là, terrible celui-là, il marche super bien, je te le conseille, achète-le. » Et on loue des tas de choses dans le monde, en fait. On loue des tas de choses qui n'en valent pas la peine. Et pourquoi on ne le ferait pas avec Dieu? Dire, mais Seigneur, tu es grand, tu es redoutable, tu es magnifique, tu es... Tu... Voilà, il y a plein de choses à dire. Et on a peut-être tendance à le faire moins que pour des objets, des bricoles qui ne servent pas à grand-chose en soi. On voit en fait dans cette prière-là, le premier objectif de Néhémie, c'est que Dieu, il écoute. Ça paraît idiot, parce qu'on se dit dans un sens, Dieu, il écoute toujours. Et on voit plus loin en fait, hein. Verset 6, que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Et plus loin, au verset 11, quand il finira sa prière, il dit « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. » On pourrait dire « ça sert à rien en fait, mais si. » Parce qu'en fait, c'était pas gagné que Dieu les écoute. Ils sont dans une situation où, il le décrit lui-même après, hein, où il y a le péché qui a régné en Israël, où ils ont été punis par Dieu, exilés, et on pourrait dire, voilà, c'est fini, Dieu ne les écoute plus. Et peut-être que dans sa tête, quand il voit la situation, il se dit, est-ce que Dieu m'écoute encore? Oui, je pense qu'il avait confiance en Dieu, hein, mais ça peut être quelque chose qu'il travaillait, et des fois, ça peut être aussi quelque chose qui nous travaille, nous. Hein. Mais Seigneur, j'ai fait ça dans ma vie... Je te prie, mais en fait, ouais, j'y crois plus, quoi. Quelque chose au fond de moi, j'y crois plus. Je le dis pas, hein. Je le dis pas comme ça. Mais il y a quelque chose qui fait que il n'y a plus tout à fait cet acte de foi dans la prière. Et là, Néhémie, il cherchait l'écoute et voilà, il savait qu'il y avait le péché, il le reconnaît. Et du coup, tout ça, c'est ensemble, quoi. Quand il dit écoute-moi, il fait le nécessaire pour que Dieu l'écoute, c'est-à-dire qu'il confesse ses péchés. Il dit, Seigneur, je suis coupable, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On va en parler un peu plus après, hein, mais il fait nécessaire pour que Dieu l'écoute. Et nous aussi, quand on se met devant le Seigneur, quand on prie pour quelque chose, il y a à se mettre en règle. Et, Seigneur, il y a des choses entre toi et moi qui bloquent la communication. Je les mets devant, je les reconnais. Et après, hop, ça s'est enlevé, on peut passer à autre chose. Néhémie, il s'appuie toujours donc sur les promesses de Dieu, en fait. Hein. Il parle de les ordonnances que tu prescrivis à Moïse. Au verset 8, souviens-toi de cette parole que tu donnes à ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Il s'appuie systématiquement sur Dieu. Et j'ai trouvé aussi que la prière de... Un morceau de la prière, on ne va pas les lire en entier, sinon on ne s'en sortira pas, mais de Salomon, quand il inaugure le temple, ça ressemblait fort à ça aussi, c'était dans la même idée. On retrouve cette prière-là dans 1 Roi au chapitre 8. Une longue prière de Salomon, mais finalement il y a plusieurs personnes qui se sont basées sur ça, sur les promesses de Dieu à Salomon, à Moïse, pour prier et pour demander le retour d'Israël dans son pays. Donc 1 Roi chapitre 8 au verset 46. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de tout leur âme, de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Et dans la prière de Salomon, on retrouve vraiment telle quelle cette situation-là. Le peuple qui a péché, qui a été envoyé en exil, la ville qui est détruite, et on voit s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils sont captifs, c'est le cas de Néhémie, s'ils t'adressent des supplications, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. Il y a cette reconnaissance de culpabilité. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme. Je pense que quand on voit la prière de Néhémie, ça correspond à ça en fait. Il y a une tristesse pour son pays et il va prier plusieurs jours, il va jeûner plusieurs jours. Il y a quelque chose qui est sérieux dans son cœur. Et c'est aussi un détail, hein, mais s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. C'est ça qui perturbait Néhémie, hein, c'était son pays, sa ville, parce qu'il sait que ça appartenait à Dieu. Alors, le point qui m'intéresse le plus dans la prière de Néhémie, c'est ce qu'on voit en fait dans la deuxième partie du verset 6. Car pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, alors ça c'est facile, je critique pas Néhémie, hein, parce que quand on voit la suite, on sait que c'était sérieux, mais confesser les péchés des enfants d'Israël, bah c'est facile. Je peux dire, en France, t'as vu, Seigneur, ce qu'ils font. Ils font ça, on a passé telle loi, on dit ça, on laisse faire ça. Ça, c'est facile parce qu'on fait que accuser, en fait. Sauf qu'après, Néhémie, il a bien compris, il dit, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Et je pense que c'est là la clé de ce que dit Néhémie dans toute sa prière, c'est qu'il reconnaît sa propre culpabilité. Et alors, dans notre esprit moderne à nous, on a tendance à utiliser des phrases qu'on entend comme ça, on se dit, ouais, mais bon, ouais, il est responsable, d'une certaine manière, mais il n'est pas coupable, quoi. Néhémie, c'était un mec bien, il prie, là, on voit qu'il tient à cœur son pays, visiblement, il avait l'écoute de Dieu, en plus, quand on voit la suite. Et on a tendance à essayer de séparer ça et de dire, bon voilà, il n'était pas totalement coupable. Et dans notre cas, nous, on se dirait, mais c'est pareil. On dirait, bon, nous, bon, ok, oui, la France est coupable, mais bon, nous, c'est parce qu'on est dedans, on est lié avec, mais nous, on sert le Seigneur, quoi, on n'est pas comme ça. Voilà, on a tendance vite à mettre des séparations comme ça pour se dédouaner. Alors, pour être sûr qu'on parle des mêmes choses, ça va vous paraître basique, mais on va parler définition. D'accord ? J'ai pris le Larousse sur Internet, monde moderne oblige, et j'ai trouvé des définitions suivantes pour le mot responsable. Alors j'ai gardé que celles qui sont vraiment en rapport avec ce qu'on dit. Donc responsable, qui doit rendre compte devant une autorité de ses actes ou des actes de ceux dont il a la charge. Les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs. Qui est l'auteur ou le coupable de quelque chose et doit en supporter les conséquences. Être responsable de la mauvaise gestion du service informatique, par exemple. Je rajoute juste informatique, hein, sur l'exemple qu'il y avait dans le Larousse. Qui est à l'origine d'un mal. Ce virus est responsable de nombreux cas mortels. Et pour coupable, c'est qui a commis une infraction, qui en est jugé responsable devant la loi. L'accusé a été reconnu coupable de vol. Qui est responsable d'une faute, d'un mal, qui en est à l'origine, qui porte en soi l'entière responsabilité d'un mal. Vous êtes coupable d'avoir oublié l'heure, par exemple. Donc il y a plusieurs genres de responsabilité, en fait. Hein. Vous voyez que responsabilité, ça a presque un niveau légal humain, on pourrait dire. Et pour coupable, on voit directement que c'est la personne qui fait quelque chose. Et il y a plusieurs genres de responsabilité. On peut être retenu coupable par la justice d'avoir commis un vol. Donc là, c'est facile parce qu'on est coupable, c'est nous qui l'avons fait, et on est responsable. C'est la même chose. On a vu dans la définition, on peut être responsable dans certains cas pour quelqu'un. On est responsable de nos enfants. Si un enfant mineur commet des méfaits, alors les parents en sont responsables. Et à ce titre, ils encourent des sanctions. D'accord ? On dit que les parents, ils sont civilement responsables. Donc là, dans un sens, ça commence à être litigieux parce qu'on dit, bah, responsable pour les enfants, c'est l'enfant qui a fait ça, je suis pas tout à fait coupable en fait, hein. Je réponds pour lui parce que voilà, j'ai pas le choix. Et on aimerait dans un sens que ça s'applique à Néhémie, ça. On dit, nous aussi, c'est pareil, quoi. On est responsable parce qu'on fait partie de la France, mais on n'est pas coupable directement. Je pense que c'est la définition qu'on aimerait bien avoir. Et certaines personnes sont jugées devant un tribunal, elles sont coupables, mais elles sont estimées non responsables de leurs actes, à cause d'un problème psychologique, par exemple. C'est souvent le cas, en fait, hein. Et un enfant, il pourrait être jugé coupable, mais pas responsable. On estime qu'il n'a pas la majorité, qu'il ne peut pas répondre de ses actes. Donc il y a dans notre monde à nous moyen de séparer à chaque fois responsabilité, culpabilité. Et on a, je pense, la facilité de dire moi je suis responsable dans ce sens-là, là, comme ça je ne suis pas coupable. Et pourtant, quand on lit la Bible là, quand on lit ce passage-là, ce que dit Néhémie, c'est nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Il dit bien moi et la maison de mon père, nous avons péché. Et quand on lisait la prière d'Esdras tout à l'heure, c'était la même chose. Il disait moi, nous. Il s'incluait systématiquement dedans. Et je pense quand on voit ça, hein, clairement le sens, c'est pas de se dédouaner, de dire bon, j'y peux rien, mais allez, je me mets dans le groupe Seigneur quand même. Non, il était coupable en fait, autant que les autres. Et ça peut paraître rude, mais je pense que c'est une première étape pour aller vers autre chose après. Je vais continuer après. Vous allez voir où je veux en arriver. Dans la Bible, en fait, il y a des gens qui décrivent la Bible, pardon, en disant elle n'est pas juste. Et je pense que c'est un peu notre comportement quand on dit responsable mais pas coupable. Parce que finalement, on est tous punis pour le péché d'Adam et Ève. Zut, et moi j'ai rien fait. Adam et Ève, à cause de eux, voilà. Donc je suis puni pour mes parents, en fait. Et cette notion-là, certains se disent, bah, c'est pas juste, c'est à cause de eux, c'est une punition collective, et voilà. Il y a d'autres passages encore dans l'Exode. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point donc devant des idoles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Je pourrais m'arrêter là. Vous savez que la suite derrière, c'est qu'il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors on pourrait dire, ouais, ça c'est l'Ancien Testament, hein, c'est que des choses. Dans le Nouveau Testament, si on regarde, Jésus s'adresse aux pharisiens dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'il leur dit, pharisiens, race de vipères, serpents, il les traite d'un tas de choses. Et il s'adresse à eux tous et on se dit, mince, il y a peut-être des mecs bien là-dedans. Il les met dans le même paquet, il ne cherche pas. Il fait à un moment donné, il fait des reproches, on voit ça en Matthieu 11, je ne vais pas le lire. Mais il fait des reproches dans les villes où il avait fait des miracles. Et il dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Il fait un tir groupé là aussi avec ces villes. Il met un nom commun sur tout ça. Et on peut dire, mais dans ces villes-là, il y avait des gens bien, peut-être même dans Sodome et Gomorre. Bah ouais, Sodome et Gomorre, il y avait des gens bien. Il y avait Lot et sa famille. Mais il fait un tir groupé. Dans ses lettres, Paul s'adresse aussi aux églises. On voit l'église aux Corinthiens le mardi, par exemple. Et il parle aux Corinthiens dans leur globalité, en fait. Et on pourrait dire, mais c'est pas juste. Il y avait forcément des chrétiens qui étaient bien à Corinthe. Aux Galates, il leur dit, aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Mais là aussi, chez les Galates, il y avait des gens bien. Et partout comme ça. Si vous regardez, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où la Bible fait des paquets de manière injuste comme ça. Et alors, il y a deux manières de réagir à ça, en fait. C'est ce qu'on a dit rapidement mardi. C'est que soit vous dites, moi j'y suis pour rien, j'ai rien à faire avec ça. Soit vous reconnaissez, oui, je suis coupable, c'est vrai. Il n'y a pas 36 solutions. Alors je vous lis juste, pendant que je réfléchissais à ce sujet-là, en général on cogite bien longtemps avant, hein. Vous avez dû lire comme moi le Vivre aujourd'hui du 27 juillet, qui disait « J'y suis pour quelque chose ». Qui disait « Devant les nombreuses injustices dans ce monde, les indignations fusent facilement. On trouve des responsables, des coupables, les dirigeants du pays, les riches, les employeurs, les syndicats, les anarchistes, les terroristes, la mafia, les étrangers, les autres de toute façon ». Si je veux rester honnête, je trouve bien des domaines où ma façon de vivre contribue à l'injustice collective. Pour la plus grande des injustices commises, la crucifixion de Jésus, lui, le seul homme juste, on a aussi trouvé des coupables, Pilate, les Romains, les pharisiens, les Juifs. Est-ce qu'à l'instar de Pilate, nous nous en lavons les mains? Mais cette mort, nous y sommes tous pour quelque chose, moi aussi. C'est à cause de mon péché, c'est pour nous réconcilier, me réconcilier avec Dieu, que Jésus est mort. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ou bien refusons-nous simplement l'idée de cette mort parce qu'elle soulève la question de notre culpabilité? Nier la réalité de mon péché ne l'enlève pas pour autant. Nier mon implication dans les faits qui se sont déroulés le vendredi saint me prive tout simplement de ma seule chance de réconciliation avec Dieu. Oui, j'y suis pour quelque chose. Mais heureusement, la réalité ne s'arrête pas au vendredi saint. Jésus est ressuscité. Alors, je veux insister sur le fait que, je vous l'ai déjà dit là, mais c'est important, de pas englober ma responsabilité personnelle dans quelque chose, se dire, voilà, c'est la France. Ça, c'est facile parce qu'on le rejette, en fait. On le met sur une entité qui s'appelle France et on rejette les choses dessus, on rejette la culpabilité dessus. Le plus important, en fait, c'est comme Néhémie, de reconnaître que je fais partie de la France et que je suis coupable comme la France. Néhémie, c'est ce qu'il fait là, hein. Je vous relis encore une fois ces paroles. Les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse. C'est nous, c'est pas eux, c'est pas ils, c'est pas la France, c'est pas autre chose, c'est nous, en fait. Et là, c'est écrit comme ça dans ce passage-là. Et c'est écrit comme ça dans Esdras qu'on a lu avant et dans d'autres situations. Donc ce qui est intéressant, c'est du coup de reprendre ces deux réponses possibles. Vous voyez rapidement que si je dis que j'ai rien à voir avec ça, ça traduit d'une certaine manière une espèce d'indifférence par rapport au groupe auquel j'appartiens. Forcément, j'appartiens à la France, j'y suis. Et si je quitte pour aller ailleurs, bah, j'appartiendrai à un autre groupe. Hein. C'est... Il n'y a pas le choix, on appartient forcément à un groupe quelque part. Moi, je suis juste, contrairement à eux. Je ne commets pas les péchés qu'ils commettent, moi, hein. Je ne suis pas comme les autres, moi. Et vous voyez qu'en disant les choses de cette manière-là, on voit tout de suite ce qui ne va pas et on entend les paroles du pharisien en Luc 18 qui dit « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Je suis un mec bien. Voilà, je ne suis pas comme eux. » Et ça, malheureusement, si vous dites que moi, je n'ai rien à voir avec le péché, de la France, j'ai rien à voir avec voilà, même ce qui se passe dans Hasbrook ou ce que vous voulez, vous en arrivez à cette situation-là, en fait. Et alors, la petite question, c'est est-ce que vous jeûnez bien deux fois par semaine? Est-ce que vous donnez bien la dîme de vos revenus? Parce que si vous ne le faites pas, même le pharisien, là, il était meilleur que vous. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Bible, juste après? Elle lui dit, le publicain qui était à côté, il est retourné justifié chez lui plutôt que le pharisien. Si on voit l'autre réponse qu'on peut apporter à la question, se dire oui, c'est vrai, je suis coupable, je suis responsable aussi, il faut. La conséquence, c'est quoi? Bah, c'est que Dieu, il fait grâce aux humbles, il fait grâce à ceux qui se repentent. Et dans le psaume 51, David, il dit tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et je pense que c'est ce qu'on voit dans le cœur de Néhémie ici. Il y avait un cœur qui était brisé pour son pays, et du coup, Dieu le voit et l'exauce forcément, en fait. Et on revient aux certitudes de Néhémie, voilà, Dieu, tu es comme ça, tu es fidèle, tu as fait cette promesse, et Dieu, il va le faire, on pourrait presque dire, il n'a pas le choix, parce qu'il est comme ça, Dieu, et il voit le cœur de celui qui prie, il voit le cœur qui est blessé pour les autres, et il ne peut que répondre, en fait. Et du coup, en fonction de la réponse, vous voyez qu'on n'a pas le même résultat à la fin. Alors, ce n'est pas une explication, hein. Il y a des fois, je vais vous dire, moi, il y a des situations qu'on trouve injustes, effectivement, comme ça dans la Bible. On dit, mais zut, lui, il n'est pas dans le paquet. Mais si je n'ai pas l'explication rationnelle à vous donner comme ça, je peux juste vous donner que les deux réponses, elles mènent à des endroits différents. Choisissez là où vous voulez aller et vous verrez que la réponse, elle s'impose d'elle-même. Même si on ne comprend pas le pourquoi exact, en fait. L'autre élément qui est important, c'est que ce n'est pas à sens unique, en fait. Ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que Dieu, il veut aussi bénir de manière collective. S'il y a une espèce de punition collective, même si ce n'est pas le bon terme, Dieu, il bénit de manière collective aussi. Il bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qu'il aime et qui obéissent à ses commandements. On voit aussi dans la prison à Philippe, le geôlier qui se tourne vers le Seigneur. Alors juste avant, Paul lui dit, fais-toi baptiser, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je ne sais pas si on peut dire que toute la famille sera nécessairement sauvée, s'il faut le prendre tel quel. Je ne veux pas rentrer dans cette discussion-là ce matin, mais il y a nécessairement une bénédiction, quelque chose de bon qui rentre dans la famille, en fait. Et je pense qu'on le reconnaît chez nous, hein, on le voit quand on suit le Seigneur de tout notre cœur, on voit que l'entourage est béni aussi, en fait. C'est évident, je ne pense pas qu'il y ait besoin de justifier quelque chose. On voit dans les épîtres de Paul qu'une femme qui est au Seigneur alors que le mari ne l'est pas, elle est une bénédiction pour lui et pour les enfants. Et on voit que les enfants sont sanctifiés à cause de la femme. C'est dans le sens inverse aussi. Si c'est le mari qui est au Seigneur, et voilà, il y a une bénédiction qui est autour de nous, en fait. Et ce n'est pas une fatalité non plus. Voilà, c'était un autre élément important. Il ne faut pas se dire parce que Dieu il a dit 3 ou 4 générations où ceux qui font le mal, ils sont maudits. Alors bon, mon père il a fait des bêtises, ou mon grand-père, on est puni 3-4 générations, je peux rien faire, hein, c'est fichu d'avance. Non, parce qu'il y a plein d'exemples dans la Bible de gens qui ont été mauvais comme tout, qui ont eu des très bons enfants, qui honoraient le Seigneur. Et il y a eu l'inverse aussi. Vous voyez que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la lettre comme ça, en fait. Donc le point clé dans tout ça, c'est pas de se dire est-ce que Dieu est juste ou non, en fait. Ça, limite, c'est pas à nous à l'expliquer, c'est de dire est-ce que je me repens de mes péchés. Toute la question clé, elle est là-dedans, dans cette prière de Néhémie, elle est là-dedans dans la prière d'Esdras aussi, et dans celle de Salomon qu'on a vu avant. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est pareil, c'est pas de dire est-ce que je suis maudit ou pas. Ça peut devenir une question, du coup, hein, quand on entend ça, on dit faut que je trouve dans mes antécédents s'il y a eu grave ou pas, et voir si je suis maudit, si j'ai encore une chance. Non, parce que dans tous les cas, on a notre chance, et il faut passer par la repentance. Alors, on l'a lu dans le feuillet de vivre aujourd'hui. C'est pas parce que je nie que j'ai cassé quelque chose que la chose n'est pas cassée. Hein, si l'enfant il vient me voir et qu'il me dit « c'est pas moi qui ai cassé le vase ». Ouais, mais le vase, il est cassé quand même, ça change rien. Et tant que je dis que c'est pas moi, c'est pas moi qui va les réparer, parce que sinon c'est un peu avoué quand même, vous voyez. Il faut passer par la repentance, dire oui, c'est moi. C'est la confession, hein. Ça fait très église catholique, mais c'est comme ça avec le Seigneur aussi, confesser mes péchés devant lui. Et après, ça me donne l'occasion de réparer et de faire mieux. Tant que je dis que c'est pas moi, on est déjà bloqué, on n'avance pas, en fait. Un autre élément qui est important dans toutes ces idées-là, c'est que regarder à la malédiction, regarder à « c'est pas juste », c'est nous amener à la colère, en fait, à la tristesse et à des sentiments qui ne nous mèneront pas loin, finalement. Alors que nous ramener à la repentance, c'est donner lieu à réparation et donc le fait d'avoir grâce, d'être sauvé, d'avoir la joie, parce que c'est effacé, en fait. Et avec Adam et Ève, c'est comme ça. On peut se dire qu'il y a une malédiction qui est rentrée dans le monde avec eux. Si vous continuez à dire « ouais, c'est pas juste, moi je suis pas pécheur, j'ai pas besoin de ça », vous vous privez de la grâce de Dieu. Alors que si vous dites « oui Seigneur, c'est vrai, j'aurais été à leur place, j'aurais fait la même chose. Exactement la même chose, je suis pas mieux qu'eux. » Et à partir de ce moment-là, vous bénéficiez de la grâce et vous voyez que cette malédiction qui était censée s'étaler sur des générations, vous la quittez, en fait elle n'est plus pour vous. Si je reconnais que Dieu, que je suis coupable, et qui donc il a fait nécessaire pour mon salut, je ne suis plus dans ce système-là de malédiction, je suis dans sa bénédiction. Et vous voyez, toujours on parle de cette question-là, est-ce que c'est juste, pas juste tout ça, la réponse qu'on en donne, et qu'est-ce que ça donne dans notre vie. Et vraiment, je pense, quand on reconnaît ces choses-là, même si on ne comprend pas, et qu'au fond de nous, on dit, mais pourquoi, Seigneur? Il y a le fait d'aller, de dire, Seigneur, oui, c'est vrai. Je ne le comprends pas pourquoi, mais c'est vrai. Et du coup, le résultat, à la fin, il est là quand même. Alors, on en arrive à la fin de la prière de Néhémie. Donc, il s'appuie toujours sur les paroles de Dieu. Vous voyez sur les propos de Moïse qui ressemblent fort aux propos de Salomon aussi. À la fin de sa prière, en fait, Seigneur, que ton oreille soit attentive, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, fais-lui trouver grâce devant cet homme. Ce qui est rigolo, c'est qu'on glisse un tout petit verset là, comme ça, quand on a découpé en chapitre dans la Bible. J'étais alors et chanson du roi. Puis se dire, aucun rapport, pourquoi il fait là ce verset? Il pourrait presque être avec la suite, en fait, hein. Et en fait, je me vois bien dans la prière de Néhémie, dire Seigneur, oui, il faut reconstruire ça, il faut reconstruire les murailles de Jérusalem, tout ça. Et ben vas-y, toi. Ben non, Seigneur, je suis informaticien, je sais rien faire de mes mains, hein, je vais pas aller reconstruire une muraille, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas manuel du tout, c'est pas moi. Et il y a ce côté-là, il était échanson du roi. Cet homme-là, il servait du vin, il goûtait du vin, il servait les choses au roi. Il n'était pas là pour construire une muraille. Et pourtant, c'est lui que Dieu envoie, en fait. On se dit, mais Seigneur, il y a un décalage là, c'est pas lui qu'il faut envoyer. Et lui-même, je pense qu'il aurait peut-être presque été le premier à se dire, mais Seigneur, pas moi. À la rigueur, je peux peut-être superviser un peu. J'ai l'habitude de m'occuper des, je sais pas s'il y a des sous-échansons du roi ou des gens qui sont un cran en dessous, serviteurs qui préparent le repas, mais pas moi. Et en fait, je sais pas à quel moment il se rend compte qu'il va être concerné. Parce que finalement, toute sa prière, il parle pas de lui, hein. Il est orienté sur le Seigneur, sur ce qu'il demande. Et à la fin, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Il a pris conscience qu'en fait, il était engagé dedans. Alors, je ne veux pas vous faire peur, hein. Si je vous dis de prier pour la France, prier pour notre pays, ben, il y a un risque derrière, c'est que le Seigneur, il nous utilise, en fait. Et pas juste prier, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. C'est que je vais probablement servir à ça aussi. Il y en a plein dans la Bible, en fait, hein, comme ça. Moïse, il a intercédé pour le peuple et il a été pleinement impliqué dans le peuple après. Il a prié pour que le peuple soit délivré de l'esclavage quand il est devant le buisson ardent. Et finalement, bah, c'est lui qui a envoyé. Les prophètes, la plupart du temps, ont prié que Dieu intervienne et ils étaient eux-mêmes les instruments de Dieu. Néhémie a rebâti les murailles. On voit que même s'il était échanson, il a fait le travail correctement après, n'est-ce pas? Esdras aussi, il a prié et il a été impliqué du coup derrière dans la reconstruction. Alors, peut-être plus d'un point de vue moral pour Esdras. Mais voilà, ils ont. Finalement, tous ceux qui ont prié comme ça pour le peuple d'Israël, ils se sont retrouvés embarqués dans l'œuvre de Dieu pour Israël. En même temps, il faut être honnête. Vous dites, Seigneur, mon pays, il a vraiment besoin de ça. Il dit, bah, ok, banco, vas-y. Et si vous dites non, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent avec votre demande de départ. Je reviens juste sur le verset 11, Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Je sais pas si vous, si vous voyez le lien que je vais faire, moi je voyais le lien avec Abraham qui prie pour Sodome et Gomorre. Dire pourquoi? Parce que on a l'impression que Néhémie dit voilà, je suis bon, ok, il y a moi qui prie, Seigneur, mais on est quelques-uns. Il y a tes serviteurs en fait. Il n'était pas tout seul. C'est peut-être un truc qui peut nous rassurer en dire si on prie, le Seigneur va nous envoyer, mais pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui lui appartiennent et il peut créer des équipes comme ça. Et moi, je voyais un peu la prière d'Abraham de dire, quand il négocie avec Dieu, vous savez, il dit, bah, Seigneur, s'il y a 100 justes dans la ville, s'il y en a 50, s'il y en a 20, s'il y en a 10, et à la fin, je crois qu'il s'arrête à 10, hein, si je ne me trompe pas. Et il n'y en a pas 10, en fait. Mais le Seigneur, il va quand même sauver Lot et sa famille. Il fait quand même quelque chose. Et le parallèle dans le Nouveau Testament, c'est là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est un peu la même notion que même si, voilà, je suis pas tout seul, Seigneur, on n'est pas nombreux, mais écoute-nous, s'il te plaît. Et le Seigneur y fera quelque chose parce que dans tous les cas, même s'il y a quasiment rien, il s'en occupe en fait. Il fait du bien même à un pas grand-chose, à un petit groupe. Vous voyez que même au travers de ça, en fait, il fait confiance que le Seigneur, il est juste, qu'il prendra soin d'un petit quelque chose qui lui appartient. Et il s'appuie tout au long de sa prière sur qui est Dieu, en fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est lui. Pas parce que nous, on est bon. Parce que nous, on reconnaît notre péché. C'est ça notre première tâche. Alors, juste pour terminer, peut-être réappliquer ça un peu à des choses peut-être un peu plus concrètes. On pointe souvent du doigt, vous savez, les États-Unis. C'est facile, hein, c'est pas nous. C'est toujours pareil, on y revient. Et on se dit, voilà, ils chassent Dieu de plein de choses, on refuse Dieu dans les écoles, on fait ceci, on fait cela. Et alors du coup, quand il y a une tuerie là-bas, c'est de leur faute en fait. Puisqu'ils ont chassé Dieu, ils ont dans un sens que les conséquences de ce qu'ils ont fait. C'est pas faux. C'est pas faux, mais dit sur un ton accusateur, c'est pas bon. Et je me souviens d'une image, je crois que c'est une image comme ça, où on voit quelque chose qui chasse une pancarte, comme si Dieu n'a pas de droit d'accès aux écoles. Et puis derrière, y a une tuerie et je sais pas si c'est des chrétiens ou un mot qui dit, bah oui, mais regardez, vous avez chassé Dieu. Enfin, il y a quelque chose en fait de méchant dans cette remarque-là, simplement. Et je pense qu'en fait, on n'est pas mieux en France. Alors après, ça dépend des stades, on ne va pas rentrer dans les discussions, les détails, mais sous couvert de laïcité, on chasse Dieu de plein d'endroits, de beaucoup d'endroits. Et il y a des conséquences derrière, il y a forcément des conséquences. Mais on ne peut pas juste rester à pointer et à dire, bah voilà, vous n'avez pas voulu Dieu, alors forcément, hein. Parce que ça, ce n'est pas un comportement d'amour, ce n'est pas un comportement pour attirer les gens au Seigneur. Et quand on fait ce genre de comportement-là, en fait, on en revient à la situation qu'on disait tout à l'heure de pointer, en fait. C'est eux, c'est eux, c'est eux, et c'est pas moi, en fait. Et je veux vraiment revenir sur ça, on fait partie de notre pays, on fait partie de notre ville. Et donc quand je dis que je devrais pas dire c'est les Français qui ont péché, ou c'est la France qui a péché, je devrais dire c'est moi, Français, qui ai péché. Ou c'est nous, Français, qui avons péché, en fait. Je pense que c'est une traduction pour notre situation à nous de ce que dit Néhémie. On adapte juste à notre situation à nous. On ne doit plus voir le monde autour de nous et se demander en quoi ça me concerne. Il faut vraiment qu'on se tourne comme Néhémie vers le Seigneur. Et c'est quelque chose qui me travaille tout autant que vous, hein. C'est pas, je suis pas là en train de vous donner la leçon en disant vous, voilà, parce que sinon je tombe dans la même chose. Mais c'est quelque chose qui travaille mon cœur à moi aussi, de me dire mais notre pays il va où, Seigneur? Et juste de se mettre devant lui, dire Seigneur, il faut prier pour mon pays, il faut prier pour les autorités, il faut prier pour la ville. Il y a plein avec les régions, avec les départements. Voilà, on peut créer des étages autant qu'on veut, hein, dans ce qui est au-dessus de nous, dans les groupes auxquels on appartient. Et il faut s'identifier à ça, pas dans le sens où je vais faire le mal comme eux, hein, mais prendre à cœur la situation de notre pays, des groupes auxquels on appartient, prendre à cœur les gens avec qui je travaille. C'est un autre groupe peut-être pour sortir un peu des références France ou région, et dire Seigneur, je suis triste de ça. Pas juste maintenant là comme ça, pendant 2 minutes, et puis je rentre chez moi, là j'oublie, mais je veux que tu mettes un fardeau vraiment sur mon cœur pour prier pour mon pays, pour prier pour ce qui m'entoure, et être prêt après, une fois que j'aurai reconnu tout ça, reconnu que je suis pécheur, comme les autres, je ne suis pas mieux. Dire Seigneur, je suis prêt, je veux y aller maintenant, je veux être à ton service et je veux pouvoir servir à quelque chose là-dedans. Notre première responsabilité, si on parlait de responsabilité tout à l'heure, c'est de faire quelque chose pour notre pays, de prier et de se mettre devant le Seigneur et de tenir juste notre pays, notre ville devant le Seigneur et dire Seigneur, je veux plus que la France, ça soit ça. Je veux que ça soit quelque chose qui t'honore, qui soit plaisant à tes yeux. Il y a une petite phrase qui est dite à Esdras, en fait, après sa prière, qui pourrait presque servir de. Ah, il manque la connotation de j'ai péché, de repentance. Mais au chapitre 10 d'Esdras, pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes et femmes et enfants, et le peuple répondait d'abondantes larmes. Alors, c'est un peu plus loin, mais c'est pas grave. Alors Shekania, fils de Jehiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu. Vous voyez, quand il y a une prise de conscience du péché, elle peut se généraliser facilement. C'est presque un virus. Et ça, c'est un bon virus. Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Ça, c'est important. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Et cette petite phrase je pense, qui est importante, lève-toi, et Pascal l'a dit la semaine dernière, je crois, lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. Lève-toi, car cette affaire se regarde. Et je pense, lève-toi, parce que ce qui se passe en France, ça te regarde. Seigneur, je veux m'associer à mon pays, reconnaître que je suis pécheur comme les autres. Seigneur, c'est le point principal, Seigneur, reconnaître que je suis pécheur devant toi. Et Seigneur, que si je ne fais pas les choses que font les autres, c'est uniquement par ta grâce, Seigneur. Il n'y a aucune autre raison. Et Seigneur, je te prie de mettre dans nos cœurs cette envie de repentance, Seigneur. Tout passe par là dans ta parole, c'est tout le temps la repentance, avant que quoi que ce soit d'autre. Seigneur, mets dans notre cœur cette conviction de péché toujours plus forte. Merci Seigneur, parce que ça n'ira pas à la mort, ça n'ira pas à une tristesse qui ne sert à rien, mais ça ira à la grâce, Seigneur, à la joie, à la paix, au salut. Et Seigneur, je te prie de mettre dans notre cœur un fardeau, Seigneur, pour notre pays, pour les gens qui nous entourent, que nous ne soyons pas insensibles à ce qui se passe autour, même si on peut être saturé de toutes ces mauvaises nouvelles, Seigneur, tu me mets un cœur sensible, Seigneur, un cœur qui pleure en entendant ces choses. Merci, Seigneur, pour ta parole, et on te prie vraiment d'être attentif, Seigneur, à nos prières et de toucher nos cœurs, Seigneur. Amen.